Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. L'inconvénient et Québec Science. Au programme, la boxeuse et le guerrier. Et comment exprime-t-on l'amour d'un pays à l'autre? Bonne écoute.
La boxeuse et le guerrier. Un essai de David Doré. Paru dans l'Inconvénient à l'été 2022. Certains se souviendront peut-être que, dans mon article du numéro 87, j'émettais des doutes sur l'utilité de l'indignation comme moteur d'écriture. En gros, j'observais, à partir des deux essais dont je traitais, que se fâcher n'était pas le gage d'une réflexion étoffée et donc que les sursauts de rage n'alimentaient guère la sagesse. Or, deux livres récents montrent que la colère peut parvenir à s'articuler avec la pensée. Ils montrent comment une profonde exaspération peut mener à formuler des concepts ou à proposer des voies d'avenir. Marie-Pierre Lafontaine, l'autrice de l'un de ses ouvrages, souligne d'ailleurs les limites de la simple indignation, qui, selon elle, demeure la manière la plus noble d'éviter sa part de responsabilité. Derrière la façade vertueuse, elle voit une passivité nocive qui se contente de monter sur ses grands chevaux sans régler la situation. De même, Daniel Siwi, s'il se plaît à jouer avec l'image de l'Indien ombrageux, dépasse son ressentiment pour dégager des pistes de solutions. Marie-Pierre Lafontaine s'est rapidement fait connaître grâce au succès du récit « Chienne », paru chez Héliotrope en 2019. Celui-ci a reçu plusieurs nominations, ainsi que le prix SAD, récompense française couronnant une œuvre érotique, ce qui est tout de même un drôle d'honneur pour un livre qui dénonce la violence sexuelle. Tous ceux qui ont feuilleté Chienne, et il suffit d'en lire un ou deux passages, ont été frappés par la brutalité des scènes d'inceste et de maltraitance, d'autant plus puissantes qu'elles sont communiquées dans une prose sobre, laconique, qui par sa brièveté décuple le choc du propos. Le second ouvrage de Lafontaine, « Armer la rage pour une littérature de combat », pourrait se voir comme le pendant théorique de Chienne. L'autrice cherche à y établir l'espace éthique à partir duquel elle a élaboré son témoignage. Elle y réfléchit sur les notions de contre-attaque, de riposte de violence, légitime ou non, autant sur le plan concret de la protection des femmes que sur le plan symbolique de la littérature et de sa capacité à faire quelque chose. L'essai présente une alternance d'histoires personnelles et de discussions intellectuelles. Le point de départ, un incident survenu sur le quai du métro ou une agression, comme l'indique le titre du premier chapitre, le mot même qu'on choisit d'employer est révélateur de nos conceptions, et là où j'aurais eu tendance à ne voir qu'un événement fâcheux mais inhabituel, l'autrice veut nous faire comprendre qu'il y a un geste excessivement courant. La jeune femme est approchée par un homme en manteau de cuir noir, qui lui agrippe les fesses. Ce contact imposé réveille en elle une terreur qu'elle croyait calmée et des souvenirs d'enfance qui, visiblement, n'attendaient qu'un déclencheur pour revenir dans toute leur vivacité. Lafontaine raconte ensuite les heures et les jours qui suivent. Stupeur qui lui coupe bras et jambes dans le wagon de métro. Puis plainte auprès des autorités. Formation en autodéfense donnée par un policier. Cours de boxe. Car oui, l'écrivaine s'exerce à la boxe. Dans la description qu'elle en fait, ce sport constitue pour elle une manière de reprendre possession de son corps et de retrouver sa confiance en elle. À ces récits s'entremêlent des passages réflexifs abordant divers sujets comme le traitement judiciaire des cas de viol, les abus envers les groupes minorisés ou le rôle de l'écriture dans la guérison du trauma. À ce propos, l'essayiste se montre d'un non-romantisme aussi abrupt que satisfaisant. Seule l'extraction chirurgicale du lobe temporal exorciserait le trauma. La vraie catharsis, dit-elle, consiste non pas à écrire, mais à s'asseoir durant des mois devant une psychothérapeute pour apprendre à toucher sans dégoût sa honte et ses peurs. L'une des grandes qualités de ce livre est la pensée étoffée que déploie l'autrice sur la question du trauma. Dès les premières pages, elle tâche de décrire l'expérience intime de la souffrance qui continue à faire sentir son onde de choc dévastatrice après des années. Bien qu'elle ait consulté des sources scientifiques sur le trauma et qu'elle les intègre de façon pertinente à son discours, c'est surtout l'analogie poétique qui lui sert à expliquer comment le monde, intérieur aussi bien qu'extérieur, se déforme sous l'ébranlement reçu par l'organisme. Rejetant le « comme si » de la comparaison, l'écrivaine use de la métaphore pour sa capacité à fondre intimement deux réalités et à communiquer au lecteur la saillance envahissante de certaines sensations. La peur n'est pas comme un voile sombre qui envelopperait nos pensées et nos perceptions. Elle cache littéralement certains pans de notre environnement et rétrécit notre existence à l'échelle de ce dont on doit se méfier. Ne compte que ce qui, en quelques pas, peut me rejoindre et me blesser. De même, ce n'est pas comme si une étrangère vivait en moi, toujours prête à me paralyser en cas d'agression par un cambrioleur, un collègue, un ami. Une véritable part de moi est restée coincée dans l'enfance et se fige quand les frontières de mon intimité sont violées, me faisant faire la morte en attendant que ça passe. Je vous rappelle que vous écoutez « La boxeuse et le guerrier », un essai de David Doré paru dans L'Inconvénient à l'été 2022. La Fontaine propose ni plus ni moins qu'une phénoménologie du trauma. Par sa grande qualité, le travail littéraire, ici, pourrait acquérir droit de cité auprès des psychologues et des philosophes, tant est dépeint avec art le scandale de l'irruption du mal dans notre vie. Durant le trauma, il y a effraction. Le monde de l'autre franchit mon monde intérieur, sans avertissement, sans médiation ni préavis. Cette déchirure dans l'enveloppe psychique causée par ce qui, dans l'attaque, relève de l'inouï, neutralise notre capacité à réagir, nous ravit à nous-mêmes, nous capture. Toute agression sexuelle destitue le « moi » de ses pouvoirs d'action et de réaction. Elle ordonne un exil. L'essayiste se permet même d'ajouter sa modeste contribution à la théorie du trauma. Cette notion est comprise dans le DSM-4 1994 et le DSM-5 2013 comme le choc consécutif à un acte violent commis envers l'individu lui-même, envers l'un ou l'une de ses proches ou envers des inconnus lors d'un événement dont on est témoin. Sur cette base, La Fontaine lance la suggestion, intéressante, que le trauma pourrait englober des actes violents touchant une personne avec laquelle on sent que l'on partage des caractéristiques, notamment s'il s'agit de traits dévalorisés en société et qui entraînent un plus grand risque d'injustice. Par exemple, le fait, pour une personne noire, d'être exposée avec récurrence à des histoires de brutalité policière dans les médias traditionnels et à des commentaires discourtois dans cette jungle de douceur que sont les réseaux sociaux, risquerait de provoquer chez elle un état de choc traumatique. L'idée n'emporte pas pleinement l'adhésion, car alors le bassin des malades potentiels prendrait des proportions colossales, mais elle mériterait sans doute d'être discutée. Elle met peut-être au jour un véritable mécanisme du trauma. Une autre idée importante chez l'essayiste est l'absurdité d'enseigner aux femmes et aux filles à se prémunir contre les agressions et à se défendre en cas d'attaque. Pourquoi est-ce absurde? Car alors, on accepte comme un état de fait indiscutable le danger pour les femmes de s'aventurer hors de leur domicile, voire de rester à l'intérieur. Considérant que vous risquez d'être blessé ou tué à n'importe quel moment, nous allons vous montrer comment vous protéger. » Qu'est-ce qui est le plus ridicule là-dedans? La conclusion ou la prémisse? L'un des passages stupéfiants du livre, pour moi, est la scène où l'on voit des adolescentes, des couples d'amis, des dames âgées réunies dans un dojo autour d'un agent du service de police qui doit leur apprendre des tactiques d'autodéfense, mais qui leur demande d'abord de nommer les trucs de sauvegarde qu'elles connaissent déjà. Et la narratrice de dresser une liste de mesures préventives qui courent sur une page entière. Ce qui me frappe n'est pas tant la longueur de cette énumération. Refuser les verres tendus, éviter les zones d'ombre, appeler quelqu'un avant de traverser un stationnement désert, etc., que le décalage entre mon ébahissement devant cette somme de précautions nécessaires pour mener sa vie quotidienne et le détachement blasé des amis à qui j'en ai parlé. Bien sûr qu'on fait ça, qu'est-ce que tu crois? Je prenais conscience très naïvement du fait que toutes mes proches vivent dans un monde qui ressemble au mien, mais qui en est distinct. Moi, je ne verrouille jamais la porte quand je me trouve seul chez moi. Je n'y pense même pas. Un élément qui m'intrigue également est la passivité des femmes agressées. Alors qu'il est si facile de crever un œil ou de briser un nez, alors que la colère peut doubler la force physique, pourquoi l'immense majorité des victimes se laissent-elles faire? Sans doute de telles questions passeront-elles pour répréhensibles, mais enfin, c'est Marie-Pierre Lafontaine elle-même qui les pose. Elle non plus ne comprend pas trop. Elle avance une hypothèse. Un effet de sidération serait à l'œuvre dans l'agression d'une femme par un homme. Cette sidération proviendrait de ce qu'elle nomme la puissance mythique du mâle, un poids invincible lié à la tradition attribue une toute puissance à la virilité et ordonne à la féminité de se figer. Avant même que l'homme pose un geste, une ombre de terreur le précède, lourde et opaque comme le passé, qui paralyse les femmes sur lesquelles elle tombe. Mieux vaut se retenir de crainte de connaître un sort pire encore. « Soumets-toi ou meurs », résume l'écrivaine. Devant ces constats, comment réagir? Lafontaine apporte sa propre réponse. En se battant au sens littéral. La boxe et les arts martiaux lui auront appris, dit-elle, à ne pas attendre ni redouter les coups, mais à les asséner la première. À ne pas être l'objet de la colère et sa source. À faire passer la peur d'avoir mal derrière la volonté de faire mal. De ce principe d'action découle, sur le plan symbolique, ce qu'elle appelle la littérature de combat. Ce concept désigne pour elle le fait d'écrire sans gêne sur des sujets que la manipulation des abuseurs cherche à maintenir dans l'ombre, le domaine de la honte et du non-dit. En d'autres mots, si l'injonction des violeurs est « tais-toi, tu ne vaux rien », l'écriture animée par la fureur veut briser cette loi du silence et exposer au grand jour en quoi consiste la violence réelle, plus dure et moins attrayante que la violence spectacularisée. Ici, la brutalité, dépeinte, ne sert pas à séduire. Elle sert à prendre la mesure de la destruction opérée dans l'être de la victime par les coups répétés. Je vous rappelle que vous écoutez « La boxeuse et le guerrier », un essai de David Doré paru dans L'Inconvénient à l'été 2022. Je dois l'avouer, j'étais au départ sceptique devant cette idée de littérature de combat. Je craignais d'avoir affaire à un concept inconsistant qui se donnerait des allures respectables, en allant courageusement blâmer les méchants et louanger les gentils. J'avais peur de me trouver encore face à l'éclat d'une colère qui, pour légitime qu'elle soit, n'offrirait pas grand-chose à la pensée. Pour moi, cette exigence d'intelligence n'est pas une manière de minimiser les atrocités subies par un nombre effarant de personnes. Au contraire, c'est une manière de reconnaître la gravité de ce qui se passe et d'espérer une réponse adéquate. On combat difficilement le mal avec des idées molles. Et si la rage peut constituer un puissant moteur pour enclencher des changements sociopolitiques, elle n'est pas garante d'une pensée riche. Les personnes qui ont été victimes de crimes ou de maltraitance, et comment savoir qui parmi nous l'a été, ne sont pas plus bêtes que les autres. Et on peut attendre d'elles autant de perspicacité et de capacité de raisonnement que de n'importe quel individu qui s'engage dans l'écriture. En ce sens, le livre de Marie-Pierre Lafontaine, malgré sa brièveté, s'avère fort stimulant en ouvrant des pistes de réflexion. En somme, l'écrivaine plaide pour une liberté de parole dans la littérature sans sacrifier la part essentielle de l'esthétique. Reste obscure pour moi la place de l'imagination. L'essayiste considère-t-elle que seules les personnes ayant réellement vécu un traumatisme ont le droit d'en parler? Son argumentation n'envisage que des gens qui oseraient prendre la parole après avoir connu des abus, mais admet-elle que l'imaginaire et l'empathie qui l'entraînent puissent faire œuvre utile également? Bien sûr, pour ma part, je n'estime pas que toute littérature doit faire œuvre utile au strict sens de justice sociale, mais il y a aussi de l'espace pour cela, et dans ce cas, je crois que la force du discours narratif de fiction n'est pas moindre que celle du témoignage autobiographique. Par ailleurs, je m'interroge sur un paradoxe d'armer la rage. Quelle est la pertinence de remédier à la violence par un idéal de violence et de remplacer un mal par un mal équivalent? Je ne vois pas en quoi notre humanité progresse quand on rêve, comme l'autrice, de casser le nez aux hommes à coups de poing pour corriger le fait qu'ils brisent à coups de poing le nez des femmes. On s'enferme dans une dialectique qui, pour satisfaisante qu'elle soit dans l'immédiat, ne fait que reproduire le cycle des sévices, alors que le but, me semble-t-il, est d'en sortir. La rage se trouve aussi du côté des Autochtones. C'est avec ironie que Daniel Siwi, libraire et éditeur de La Nation Wendat, connu auparavant comme celle des Hurons, intitule son court ouvrage « Indien stoïque ». Et si on n'avait pas deviné que l'écrivain plaisante, la page couverture le révèle, une peinture du toujours divertissant Kent Monkman, montrant un guerrier indien qui donne la fessée à un agent de la gendarmerie royale, de même que l'exergue. Sous un adage de Cicéron, déclarant que jamais le sage ne se met en colère, l'auteur commente « Fuck, j'en ai encore des croûtes à manger avant de devenir le vieux sage de la réserve. » Le ton est donné. La prose de Siwi est familière et humoristique. Pour tout dire, on parcourt son livre avec le sourire aux lèvres. Mais même si l'auteur ne semble pas se prendre au sérieux, sous son léger cabotinage se cache une véritable colère et une véritable pensée. Sa colère s'exerce envers les Blancs, notamment envers le gouvernement fédéral qui, sous ses grandes déclarations, ne fait pas grand-chose pour régler les problèmes du colonialisme, toujours actif à travers la loi sur les Indiens. Il critique aussi ceux que je me plairais à nommer les philautochtones, comme on parlait au 19e siècle des philhellènes, qui manifestaient une ardente sympathie à l'égard des indépendantistes grecs. L'auteur se moque gentiment de ses admirateurs qui, par un effet de mode, embrassent leurs fantasmes plus que la réalité et ne remédient à leur étrange auto-rabaissement qu'en se plongeant dans une altérité qu'ils imaginent supérieure. À leurs yeux, l'image du bon sauvage est si attirante qu'ils aimeraient vraiment faire partie de cette gang-là. C'est comme au secondaire, où tout le monde voulait faire partie de la gang des cools. Pour l'instant, c'est nous, les cools de la cour d'école, mais je suis pas mal sûr que le vent va finir par tourner et ces personnes vont se rendre compte qu'être autochtone, c'est loin d'être aussi le fun qu'on pense. À ce sujet, Siwi n'hésite pas à vitupérer les siens. Ces passages ont la qualité de déboulonner certains mythes sans que l'auteur doive craindre de se faire censurer, son ethnie lui donnant droit à la parole dans la logique actuelle. « Non, dit-il, tout n'était pas idyllique avant l'arrivée des Blancs et tout n'est pas de leur faute. Non. On ne peut pas jeter dehors les descendants d'Européens. Et qui voudrait recommencer à vivre de la chasse et de la pêche en habitant des maisons longues? La modernité a ses avantages. Non, les Autochtones ne forment pas un beau grand peuple uni par la fierté. Les différentes nations se querellent depuis belle lurette. Et oui, il y a eu des abus horribles, mais ça ne sert à rien de se lamenter. Devant l'alternative entre le bon Indien soumis qui attend sagement d'être accepté et la victime outrée qui pleure sur la perte de son paradis, il avance l'image du guerrier. Réclamant le droit d'être en tabarnak, il sollicite l'énergie de la colère pour faire évoluer la situation de ses semblables. Pour lui, le ressentiment paralyse alors que le sentiment de révolte entraîne des changements concrets. Il se permet ainsi de formuler des propositions qui ont le mérite d'être réalistes et qui ne reposent pas sur une opposition insoluble, ni sur un schéma simpliste de renversement de la domination et de l'humiliation. Les Autochtones ne récupéreront pas leurs territoires ancestraux, c'est clair. Mais ils peuvent négocier avec le gouvernement des redevances substantielles. Le Québec a organisé 2 référendums pour devenir indépendant sans demander la permission d'Ottawa. Les Autochtones ne pourraient-ils suivre cet exemple? Ils plaident aussi pour certains compromis. Les conseils de bande, même s'ils ont été imposés, sont là pour de bon, il faut s'y résigner. Somme toute, l'opuscule de Daniel Siwi montre comment la colère peut être dépassée pour déboucher sur des considérations sérieuses, plus utiles que la seule grogne. C'était « La boxeuse et le guerrier », un essai de David Doré, paru dans « L'inconvénient » à l'été 2022.
Comment exprime-t-on l'amour d'un pays à l'autre? Un texte de Annie Labrecque, paru le 13 février 2023 dans le magazine Québec Science. Des scientifiques se sont intéressés à l'amour, cette émotion complexe, en tentant de comprendre les facteurs socioculturels qui peuvent l'influencer d'un pays à l'autre. L'amour est un sentiment universel qui survient peu importe la langue, la religion ou le lieu de naissance. Mais y a-t-il des facteurs sociaux, culturels ou environnementaux qui influencent la façon d'exprimer et de ressentir l'amour? Voilà la question posée par un groupe de scientifiques qui a publié ses résultats dans Scientific Reports. L'équipe internationale a ainsi sondé 9474 personnes de 45 pays. Le Canada ne faisait pas partie du lot. Pour comprendre s'il y avait un lien entre le sentiment amoureux et différents facteurs sociologiques, comme le niveau de modernisation, l'égalité des sexes et le degré d'individualisme-collectivisme de la société, soit le fait de prioriser l'individu ou le groupe. L'étude a aussi inclus la température annuelle moyenne, des études précédentes ayant montré que celle-ci influe sur la proximité sociale et l'expression des émotions. Citation. Pour mesurer le sentiment amoureux, nous avons utilisé pour cette étude la théorie triangulaire de l'amour. Fin de citation, explique Piotr Sorokowski, auteur principal de l'étude et chercheur en psychologie à l'Université de Wrocław en Pologne. Cette théorie de l'amour repose sur 3 dimensions, l'intimité, la passion et l'engagement, qui se combinent à des degrés variables selon les relations. Les scientifiques ont ainsi observé qu'en général, citation, les participants des pays ayant des niveaux plus élevés de modernisation, d'égalité des sexes et un plus grand collectivisme ressentaient plus d'amour, en particulier un sentiment d'intimité envers leurs partenaires. Fin de citation. Les chercheurs et chercheuses ont aussi remarqué une corrélation positive entre les températures moyennes plus élevées et le sentiment amoureux. Mais comme le mentionne Piotr Sorokowski, citation, notre étude ne montre pas clairement comment la température affecte le niveau d'amour et ne donne pas de résultats sans équivoque à cet égard. Fin de citation. Quel pays possède le plus haut niveau d'amour? il semble que certains clichés soient fondés. Citation. Les données indiquent que les Italiens affichent l'un des plus hauts taux. Fin de citation. Observe le chercheur de l'Université de Wrocław, sans pouvoir s'avancer davantage sur les raisons plaçant l'Italie dans ce palmarès aux côtés d'autres pays comme les États-Unis, le Portugal et l'Indonésie. Ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle le niveau de modernisation d'un pays peut avoir une influence sur les expériences amoureuses et sur la façon dont les gens ressentent et expriment leur amour. Alors que les pays plus collectivistes, comme l'Inde, sont associés historiquement à une tradition de mariages arrangés plutôt que de mariages d'amour, selon l'équipe, le niveau d'intimité et d'engagement y apparaît plus élevé. Citation. Les valeurs collectivistes promeuvent une vision plus relationnelle des rapports amoureux. Ainsi, les individus dans les pays plus collectivistes pourraient être plus altruistes envers leurs partenaires. Fin de citation, peut-on lire dans l'étude. Les scientifiques prennent soin de souligner que leurs résultats sont basés sur des données statistiques et que les expériences individuelles en amour peuvent varier considérablement en fonction de nombreux facteurs. Et qu'une étude ne pourrait décider à quel point on peut tomber amoureux ou amoureuse. Parmi les pays participant à l'étude, les personnes sondées provenant des États-Unis, de la Hongrie, de l'Italie et du Portugal sont celles ayant déclaré vivre les relations les plus aimantes, alors que celles vivant en Allemagne, en Chine, au Pakistan et en Turquie ont révélé ressentir les relations les moins aimantes. C'était « Comment exprime-t-on l'amour d'un pays à l'autre ?» un texte de Annie Labrec, paru le 13 février 2023 dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Justine Langevin à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.